Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches entre 11h et midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour, votre sourire me fait penser qu'on va partir du côté de Veracruz, l'état le plus coquin, le plus souriant, le plus accueillant du Mexique.
Avec plaisir. Parliez de l'état de Veracruz tout à l'heure, Maurice. Est-ce la capitale, Veracruz ?
Non, Veracruz est au bord de la mer. C'est une ville, bien sûr. C'est là où est arrivé Cortés. C'est la ville de la vraie croix, Veracruz. Mais la capitale de l'état de Veracruz, c'est Xalapa. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il était impossible de vivre sur les côtes et d'en faire une capitale ou un lieu de résidence pour les Espagnols qui maintenant ne sont plus des marins, ne sont plus des conquérants, mais seraient des colons, éventuellement même des paysans ou des gens qui vont prendre des terres et avoir envie de vivre aussi dans un climat qui correspond mieux à l'Espagne. Alors imaginez maintenant simplement que vous êtes sous les cocotiers et que vous regardiez le Mexique depuis la mer, ou même si vous prenez un peu de distance.
Ah, donc, par rapport à Mexico, on est où ? On se situe où ?
Alors grosso modo,
à combien de kilomètres ?
Vous prenez la ville de Mexico, et si vous voulez aller dans l'état de Veracruz, à Veracruz vous êtes à 450 kilomètres.
Ah, quand même.
Or maintenant, nous n'allons pas nous arrêter ni descendre complètement jusqu'à Veracruz, on le fera une autre fois, mais j'aimerais vous arrêter dans la capitale véritable de cet état, puisque c'est votre question, et cette capitale c'est Xalapa. C'est une partie, disons, qui correspond exactement à un escalier. Le Mexique a trois étages, les volcans, les grands sommets, tout ce qui est autour de Mexico est à plus de 2000. Et maintenant, nous allons descendre petit à petit à 1500 mètres. Or, 1500 mètres, quand on descend sur la côte atlantique, c'est un changement radical. Et nous allons le vivre peut-être de façon extrêmement homéopathique en descendant petit à petit et se rendre compte que 1500, c'est aussi un climat qui n'existe à nulle part ailleurs au Mexique. C'est-à-dire, c'est vraiment la traversée incroyable des forêts de pluie avant d'arriver dans les tropiques où se trouve Veracruz, qui est surchauffé, qui est impossible pendant plusieurs mois de l'année, mais qui a surtout ce côté un peu malsain que les Espagnols avaient ressenti, c'est-à-dire lorsqu'ils ont débarqué au XVIe siècle, c'était vraiment tout ce qui pouvait vous atteindre et qu'on peut soigner aujourd'hui. Je pense à la malaria, je pense à tous les défauts techniques et à ces moustiques et à toutes ces plaies véritables, enfin ces maladies qu'on peut attraper sous les tropiques. Alors l'Espagnol, étant conscient qu'il avait lui plutôt envie de se retrouver en Castille, en Andalousie, dans quelque chose qui avait quand même une certaine fraîcheur, il a immédiatement imaginé et choisi une ville intermédiaire qui est née pratiquement de toutes pièces grâce à ses colons, et c'est Xalapa, qui porte un nom bien hispanique, qui va devenir le point central, disons, de la résidence espagnole.
Ça veut dire quoi, Xalapa ?
Xalapa, ça ne veut rien dire du tout, mais c'est simplement que c'est un nom qui correspond à une ville d'Espagne. Mmh. Et en l'occurrence, cette volonté de se mettre à 1500 mètres, c'était le premier endroit où l'on trouvait déjà une certaine fraîcheur, ou en tout cas un climat qui correspond beaucoup plus à l'Europe. Oh, je vous donne un petit peu d'avance. Vous n'avez qu'à prendre un petit coin de la Gruyère, vous n'avez qu'à prendre de la verdure à en mourir. Vous mettez des vaches avec effectivement...
Ça, c'est pas très loin, en fait.
Non, c'est pas loin, mais vous prenez des robes noires et blanches, et vous les éparpillez comme cela à travers quelques derniers palmiers entre deux cultures de café, et vous avez vraiment la façon de vivre à Xalapa dans des collines qui n'en finissent plus et qui en même temps sont complètement en brume plusieurs mois par année. Donc brume, brouillard, fraîcheur, chaleur en même temps, des climats qui changent presque à longueur de journée. Finalement un endroit où en tout cas le climat sur le plan santé était beaucoup plus sain que sur la côte. Ça, c'est la première chose. Alors, quand on part, je crois que la dernière fois, nous étions à Puebla. Mm-hmm. Et finalement, lorsqu'on prend cette route des hauts plateaux, qu'on quitte le Cerro de la Malinche et ses grands sommets, vous avez l'impression de platitude. Ce haut plateau est vraiment un haut plateau qui dure longtemps. Et là, sur à peu près 100-150 kilomètres, vous n'allez rencontrer que une végétation un peu curieuse. On n'a même pas l'impression que l'agriculture est présente. C'est-à-dire que pratiquement 6 à 8 mois de l'année, vous avez l'impression que tout est jaune. Même le maïs est systématiquement plié. Vous savez, la tige du maïs, et on la plie tout en haut pour laisser sécher l'épi. Et finalement, tout devient jaune, tout devient complètement brûlé. Et cette impression aussi de se retrouver là, quand on avance à 2000 mètres d'altitude, on a un point de mire qui est assez curieux. Et j'avoue que c'est un sommet qui m'a toujours intrigué. Les Espagnols l'ont appelé le coffre de Perote. le coffret des Pelotes, c'est un cube incroyable qui est là en plein milieu de cette plaine et on a l'impression de tourner autour. Je vous avais déjà décrit certains lacs étranges aussi, ces lacs qui se remplissent de quelques centimètres d'eau pendant la saison des pluies, qui s'assèchent, qui deviennent tout blancs avec ce salpêtre, avec cette mousse étrange. Eh bien, vous avez cet entourage de volcans déjà un peu apaisés comme ceux qu'on retrouverait, là je reprends la France, ou le Puy, ou cette région-là, donc les volcans d'Auvergne qui ont déjà bien été usés. Et en même temps, vous avez ces rochers très étranges, comme ce coffre de Pelotet, un cube qui a quelque chose de gigantesque et qu'on suit, enfin qui nous obsède un peu. Et en l'occurrence, autour de cela, eh bien, vous avez surtout l'impression de trouver un peu partout des haies, des sortes de barrages comme ça, végétaux, qui sont faits avec des aloès. Il y a du bois de mesquitée, vous allez retrouver par exemple cette impression de vouloir couper systématiquement les vents, hein, parce que c'est bien le problème sur ces hauts plateaux. Il y a aussi des sables qui sont soufflés eux-mêmes par ces vents, qui sont poussés par ces vents. Et vous allez aussi trouver des rangées infinies de magueys. Le maguey, c'est ce cactus des hauts plateaux qui lui va permettre de faire, à l'époque précolombienne en tout cas, des cordages, et qui aujourd'hui n'est plus utilisé pour les cordages, mais l'est encore pour le fameux pulque. Est-ce que vous savez ce que c'est comme boisson?
Non, ça me dit quelque chose, le nom me dit quelque chose, oui, mais...
C'est à l'inverse, je crois que le tequila ou la tequila, c'est comme vous voulez, mais c'est masculin au Mexique.
C'est donc un alcool.
C'est un alcool fort qui a 40 degrés et qui a été inventé grâce aux alambics et à la distillation façon européenne. Or, le pulque, c'était l'alcool typiquement précolombien qui, en fait, est une bière. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qu'on extrait de façon curieuse. Lorsque vous voyez, dans le sud de la France, on a ces énormes, moi je les appelle maguey, mais on les appelle des agaves, qui ont cette espèce de douceur de la feuille, de l'épée, si vous voulez, qui s'adoucit et qui prend des formes semi-arrondies, avec un cœur bien pointu. Alors ce sont des choses assez énormes qui peuvent pousser et puis finalement fleurir jusqu'à 5-6 mètres de hauteur lorsque ça va mourir. Je vais vous expliquer comment vit un maguey et ce qu'on peut en faire. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Thank you.
Vous voulez me saouler, Maurice?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment?
Non.
Qu'est-ce que c'est vraiment que le pulque?
Le pulque, ça te saoule, mais il faut en boire quelques litres, carrément. Alors, j'étais tout à l'heure devant ce maguey qui se démultiplie. Vous en avez des milliers comme cela dans des plaines infinies. Quand je dis infinies, je crois que c'est une des régions du Mexique où on a l'impression que la profondeur de champ est la plus vaste. On a 50 ou 60 kilomètres devant soi et toujours ces mêmes sommets que j'évoquais. Et le coffre de Perote, la Malinche qu'on vient de quitter, ces lacs qui eux-mêmes ont ce côté. Il y a souvent des digues qui les traversent comme cela et on a l'impression sur des kilomètres que l'on traverse à la fois les brillances d'un lac qui est en assèchement et justement ces alignées de maguey remplissent carrément tout l'espace. Alors ça donne un ton assez curieux qui tient un peu de... Vous avez déjà vu les feuilles d'olivier par exemple dans le vent?
Non,
même pas. Ça donne un peu ce côté argenté comme ça. Hein. C'est une feuille, enfin cette... Je ne sais pas si on dit feuille. Cet épais, enfin ces étranges croissances du maguey donnent sous le soleil des reflets qui ont un vert olivâtre assez curieux. Alors ce qu'on voit souvent dans ces immenses champs où il y a des milliers de plants, c'est un paysan qui vient avec une outre qui peut être en peau de chèvre ou n'importe quoi dans le dos et cet homme porte à la main une longue calebasse qui peut atteindre 1 mètre à 1 mètre 20 de longueur. Donc une calebasse séchée avec un petit trou à chaque bout. Et finalement, ces gens-là vont repérer eux-mêmes, ils mettent souvent un petit mouchoir ou une petite chose sur certains plants de maguey, parce que l'évolution du maguey peut changer d'un endroit à l'autre, et ils n'ont pas tous été plantés, ils le sont en principe en même temps, mais leur évolution se fait sur plusieurs années, et il y a un moment où le maguey est pratiquement mûr, c'est-à-dire qu'il a atteint sa croissance maximale, et à partir de là, cet homme va utiliser ce qu'on appelle un raspador. Avec sa machette, il va d'abord découper le cœur du maguey, cette espèce d'artichaut extrêmement pointu et qui pique, hein. Je vous dirais que quand on frotte ses épées, il y a systématiquement des petits piquants tout au long de la tige, enfin de la feuille, et le centre va être carrément enlevé. À partir de là, il va avec son raspador qui ressemble à une grosse spatule, une grosse cuillère, un peu comme nos cuillères à crème qu'on utilise en gruyère. La sienne est en métal, elle est tranchante. Il va carrément ronger le cœur du cactus pour créer...
C'est quoi, c'est de la sève à l'intérieur ?
Oui, il y a de la sève, mais il y a d'abord cette espèce de pulpe qu'il va pouvoir facilement enlever. Et il va créer une sorte de poche qui va contenir ensuite, comme vous venez de le dire, plusieurs litres de cette sève. Moi, je l'appellerais de l'hydromel parce que c'est vraiment quelque chose de très sucré, transparent, même pas gluant, mais enfin avec ce côté extrêmement douceâtre, ça tient du transparent et du jaunâtre.
Un peu gélifiant comme ça.
Oui, et ça va sortir tout au long de la journée et de la nuit, et lui-même, en repérant ceci un peu comme le ferait un taupier qui va chercher ses petites bestioles dans ses champs, avec ses petits drapeaux, il va passer d'un endroit à l'autre, et avec sa grande calebasse, il va venir sucer avec la bouche pour ne pas se piquer, avec 1 mètre, 1 mètre 20, il va aller sucer le cœur même du maguey.
Donc lui, il est déjà saoul.
Non, pas du tout, c'est de l'hydromel. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne saoule absolument pas. C'est simplement du jus sucré, si vous voulez. Mm-hmm. Il va donc le pomper dans sa calebasse. Il va simplement mettre le doigt au bout. Et ensuite, il va verser tout cela dans son dos, c'est-à-dire dans son outre. Et il fait cela toute la journée. Il passe d'un cactus à l'autre. Il fait des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour aller récolter deux fois par jour, le matin, le soir, deux fois par jour sur les mêmes endroits, ces poches qui se sont remplies de liquide.
Donc ça devient un commerce important ?
Ah, ça devient un commerce important, mais ce que vous devez comprendre, c'est que si on vend le pulque terminé, on terminera de le préparer quelques centimes, le travail de cet homme est un travail
de forçat
et qui est totalement exploité. Alors il y a un propriétaire, bien sûr, qui a les hectares, j'ai presque envie de dire les centaines d'hectares, souvent, qui sont complètement désertiques, rocailleux, où l'on a implanté ces petits maguey qui ont poussé après plusieurs années. Et là, finalement, on va récolter tout cela et on va se retrouver dans l'hacienda centrale, ou en tout cas dans le lieu où l'on va préparer la boisson. Et il faut mettre cela en tonneau. Et il faut...
Macérer.
C'est pas seulement macérer. Votre question est bonne dans la mesure où il faut, un peu comme pour le vinaigre, mettre une mer. Il faut vraiment passer la mer du liquide d'un fût à l'autre. Et au bout de 4 jours, ça c'est un chiffre encore bien précolombien, ce liquide va tourner. Il va non seulement tourner, mais il va commencer à mousser. Il va passer une couleur un peu verdâtre, ensuite carrément blanchâtre, jaunâtre. Et finalement, cette mousse en surface nous prouve bien que fermentation il y a eu. Mm-hmm. Et on a une bière qui est assez légère, qui est entre 4 et 5 degrés, un peu comme nos bières à nous. Et c'est consommable le 5e jour. Donc c'est un alcool très frais, très rapide. Et puis là, il a encore un goût assez douceâtre et agréable. On peut le boire, on aime encore le boire. On le sert en général dans des grands verres, carrément d'un demi-litre.
Ça se sert frais ?
Non, ça ne se sert pas frais, mais ça sert dans des endroits qui ont vraiment une ambiance très particulière. Au 19e, c'était très à la mode. Ça a failli passer dans la bourgeoisie et l'aristocratie du Mexique, mais c'est un alcool assez, assez particulier. C'est surtout son odeur qui est très gênante.
C'est sorti comme une liqueur, donc ?
Non, ce n'est pas une liqueur, c'est vraiment une bière. Et quand vous imaginez une brasserie, on sent cette odeur. Quand vous rentrez dans une cantina et que vous poussez les portes à la façon western et que vous rentrez dans ce qu'on appelle là-bas une pulqueria, qui produit du pulque, qui vend du pulque, il y a une odeur âcre, très curieuse, qui vous prend en narine. C'est même un peu écœurant. Et là, on consomme effectivement ce pulque. Il faut le boire frais. Et après quelques jours, il commence à tourner encore plus. Donc il devient vraiment pour nous presque insupportable. Et cette odeur, vous la retrouvez partout, l'on en produit partout. Où l'on en boit. Un vrai buveur de pulque peut avoir peut consommer jusqu'à 6 litres par jour. On se nourrit carrément. C'est extrêmement nourrissant d'ailleurs.
Back to you.
a dégusté cette délicieuse pulque après 5 jours de macération, mais on revient à Puebla. Décrivez-moi ces paysages de Puebla, Maurice.
De l'état de Puebla avant d'arriver à l'état de Veracruz, je dirais que si je devais choisir comme ça instantanément un instant, je choisirais un ciel d'orage. Ce ciel est complètement infini, aussi infini que les paysages qui sont autour de nous. Et un ciel d'orage, ça nous permet d'avoir, lorsque vous découvrez un de ces lacs, une de ces surfaces infinies, des reflets qui vont vraiment de l'argent le plus pur. Vous passez à l'émeraude, au bleu acier. Il y a vraiment des contrastes absolument fous. Et je dirais même qu'on arrive dans certaines régions à des lacs qui ont un côté brun. Vous savez, il suffit d'avoir un peu de pluie ou d'avoir quelque chose qui a ramené la boue. Et tout à coup, vous passez dans le chocolat absolu ou dans la cannelle. Et finalement, cette lumière, c'est vraiment le côté très particulier du Mexique. Il y a des spectres, enfin un spectre lumineux absolument fou. Et ensuite, alors, vous avez la surprise de découvrir... Bon, il y a des cactus un peu partout à cette altitude. Et ensuite, ce sont des forêts avec des pins d'une hauteur absolument inimaginable. Des forêts qui ont ce côté extrêmement venteux en même temps. On sent la brise, mais on sent en même temps l'odeur, bien sûr. Et puis, cette impression que les pins ne sont pas assez serrés pour empêcher le vent de passer partout. Tout bouge, tout vit, et finalement, tout à coup, vous voyez que tout commence à reverdir. Et vous descendez petit à petit de ces hauts plateaux pour aller vers l'état de Veracruz. Et là, on est soi-même complètement choqué par le changement aussi vif. Dès que vous prenez votre premier grand virage, tout à coup, vous voyez un microclimat.
Une autre végétation.
Mais instantané. Mm-hmm. Et tout à coup, vous avez une fougère arborescente qui monte carrément à 5-6 mètres et puis le bord de la route devient complètement humide. D'un seul coup, on est dans une espèce de jungle qui ne ressemble pas à la jungle, qui est justement cette forêt de pluie.
C'est dû à quoi, ça, ce microclimat différent de l'un de l'autre?
Imaginez où se trouve l'Atlantique. Là, tout à l'heure, on va voir apparaître le plus haut sommet du Mexique, le pic d'Orizaba, qui est toujours blanchi au sommet, qui est un véritable Fujiyama. Et on commence à sentir l'évaporation de la mer, c'est-à-dire cette humidité qui est montée par les tropiques. C'est une côte extrêmement plate, extrêmement, au point de vue végétation, qui est infinie, avec des fleuves partout. Ça s'évapore de partout. On sent que c'est une véritable serre. Et cette serre produit, bien sûr, de l'humidité, qui immédiatement est poussée sur les hauteurs et s'arrête dans les premiers contreforts, c'est-à-dire entre 1200 et 1500 mètres, cette humidité se transforme instantanément en milliers de gouttelettes qui se transforment elles-mêmes en brume, et cette brume est constante, je dirais presque 300 à 360 jours par année selon les lieux. Et elle se cristallise par le fait que la végétation qui est là n'est pas celle de la jungle, n'est pas celle des tropiques, mais a tellement d'eau que finalement elle permet toutes sortes de croissance. Et quand je parle, dès qu'on voit une fougère arborescente, ce sont des véritables parasols qui montent comme ça, avec un tronc extrêmement solide. Et puis c'est la fougère a une façon de se diffuser comme ça, avec ses petites feuilles secondaires. Mais là, ce sont des feuilles qui vont carrément à 1,50 m, à 2 m de longueur. Mmh. Et on a l'impression d'être pris sous un véritable arbre. Or, c'est une simple petite mauvaise herbe qui est devenue un peu trop grande. Et là, tout à coup, on commence à ressentir les lianes, le côté extrêmement... C'est pas une humidité courante, c'est le fait que là-dedans, vous avez des milliers d'oiseaux, vous avez tout ce qui correspond au grouillement de la vie peut se retrouver coincé dans cette brume.
Une jungle, en quelque sorte.
Oui, mais la grande différence avec la jungle, c'est que vous avez, en fait, plus de choses que dans la jungle, plus de vie que dans la jungle. La jungle est assez morte, finalement. Parce qu'elle est un couvert absolu et que dessous, on a l'impression qu'il n'y a rien. Tandis que là, la végétation est plus basse, plus dense et tellement humide qu'à tous les niveaux, depuis les 10 premiers centimètres du sol jusqu'à 30 mètres, partout, il y a quelque chose qui peut pousser. Alors tous les parasites possibles et imaginables peuvent grimper sur n'importe quoi. C'est complètement inextricable et c'est là justement qu'on va éventuellement commencer à déboiser pour pouvoir abriter, par exemple, les plantes café. Il y en a certains qui sont sous les arbres, il y en a d'autres que l'Arabica, par exemple, peut se permettre d'être en plein soleil. Alors, ce sont des collines très régulières. On a des centaines, voire des milliers de virages avant d'arriver à Jalapa. Ces collines sont toutes de forme très douce, comme cela. Et on passe imperceptiblement de ces canyons, comme ça, très jungle que vous évoquiez. Enfin, moi, je n'appelle pas ça de la jungle. Je rappelle, c'est de la forêt de pluie parce qu'il y a cette humidité constante à ces cultures extraordinaires qui permettent, justement, sur des centaines de milliers d'hectares, d'avoir à la fois du café ou du gazon. Mais pas pas n'importe quel gazon, un gazon d'une verdeur qui nous fait peur, parce que c'est vert toute l'année, et les vaches peuvent rester dehors toute l'année. Alors ces vaches noires et blanches, elles vivent dans une herbe qui fait 30 à 40 cm de hauteur, et qui est là toute l'année à la même hauteur.
Végétation très riche.
Vous l'avez dit. Et ce qui va vous choquer tout de suite avant d'arriver du côté de Ralapa, c'est qu'il y a un mot qui revient tout le long de la route. Il n'y a pas de grands hameaux, mais il y a partout des fermes ou de grandes, je ne vais pas les appeler hacienda non plus, ce sont plutôt des quintas, enfin, ce sont vraiment des endroits avec une étable qui ne va pas servir beaucoup, si ce n'est à récolter le lait. Et alors, le long de la route, le mot qui va vous obséder jusqu'à Ralapa, c'est le mot queso. Le mot queso, vous le voyez partout, c'est du fromage. Ouais. Partout, on produit du fromage et on appelle d'ailleurs cette région la Suisse du Mexique. C'est tout à fait logique. Or, on est à 1500 et là, on va voir que la production à la fois du bétail et cette production laitière prend des proportions démentielles. Et finalement, les gens qui vivent là sont des gens qui sont riches sans avoir rien fait. Il suffit d'avoir un terrain assez considérable et puis vous mettez n'importe quoi dessus, tout pousse.
C'est les grands producteurs de fromage alors ?
Dans cette région-là.
Dans l'état de Puebla.
Incontestablement. Là, nous ne sommes plus dans l'état de Puebla, nous sommes déjà dans l'état de Veracruz, puisqu'on s'approche de la capitale même de l'état de Veracruz, qui est Jalapa. Vous avez raison, Puebla, c'est tellement grand qu'on s'imagine mal à quel moment on va vraiment arriver du côté de Veracruz, en tout cas de cet état si riche et si humide. Et c'est surtout le contraste de la couleur. En quelques heures, en quelques minutes, tout à coup, vous avez passé du jaune ou des cactus à cette exubérance. C'est comme si vous étiez tombé sur un immense tapis de mousse. A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend.
Coffee machine that needs some fixing. to me. And I can feel a change is coming closer, sweet release. I am calling you. Can't you hear me?
Nous sommes dans l'état de Veracruz et enfin nous arrivons à Jalapa. C'est une grande ville ou c'est un tout petit village ?
C'est une grande ville, c'est une ville très blanche aussi, c'est une ville qui est restée très hispanique malgré l'endroit, malgré les tropiques que nous évoquions. C'est une ville qui fait, je pense, en tout cas 300 000 habitants et qui est en fait posée sur plusieurs collines. Vous êtes toujours près de ce coffret de Perote avec ses massifs et ses forêts presque impénétrables. Et en même temps, à l'horizon, ce qu'on remarque tout de suite, c'est ce pic d'Orizaba, ce sommet enneigé qui se trouve donc dans la ville voisine. Bah, très loin d'Orizaba justement et qui boucle un peu le paysage. Il y a encore un gros cerro, une grosse montagne, puisque toute la ville est appuyée comme ça de colline en colline sur le cerro de Macuiltepec. Et finalement, ce qui intrigue, on l'appelle la ville des sept collines. C'est un peu comme Rome, on n'a jamais l'impression d'être dans un véritable quartier. Chaque fois on a une sorte d'entité comme ceci, et puis le centre, ça reste quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il y a des petites ruelles tout à fait charmantes avec ce côté colonial. Les gens, je disais, sont assez blancs parce que c'est d'abord une énorme université. Il faut quand même savoir que rien que pour l'état de Veracruz, il y a plus de 6 ou 7 millions d'habitants. Donc ils se retrouvent pratiquement avec une population comme la Suisse qui vient étudier à Jalapa. Donc c'est une ville très jeune qui bouge beaucoup. Le soir, il y a plein d'endroits où on peut se retrouver avec les étudiants. Mais ça garde un côté froid, un côté espagnol en même temps.
Et on bouge comment à Jalapa ?
En quoi ?
On bouge comment à Jalapa ?
On bouge comme on bouge ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ville qui, curieusement, n'a pas ce côté grouillant qu'on va trouver dans les tropiques beaucoup plus bas. Et on peut sortir comme cela sur la place principale, devant le palais des gouverneurs, où il y a de très belles fresques, devant la cathédrale qui est très occupée en fin de journée au moment des vêpres. Les gens sont là entre 5h30 et 7h, 7h30, 8h. Dès que le jour tombe, que les derniers oiseaux ont crié dans les arbres, on a l'impression que la ville se vide quand même un peu. C'est assez étrange, c'est assez typique de toutes ces villes qui ont gardé cet esprit espagnol. Elles n'ont pas du tout l'ambiance de l'Espagne, mais elles ont ce côté très intime, très familial. Et je dirais même que les groupes que j'évoquais tout à l'heure, ceux des étudiants, s'enferment un peu entre eux, dans leur université, dans leur lieu propre. Mais par contre, alors la chose qui vous fera faire le détour de Jalapa, c'est incontestablement la deuxième merveille du Mexique, c'est son musée. Un musée d'anthropologie qui a été placé à Jalapa parce que c'est la capitale, mais qui regroupe toutes les merveilles qu'on peut retrouver, disons, sur l'ensemble de l'état de Veracruz. Or là, je suis obligé de partir pratiquement depuis Poza Rica, depuis les endroits pétroliers, depuis les sites qui sont tout au nord et pratiquement aux États-Unis, jusque tout en bas. C'est un état qui est très très allongé et qui finit dans la zone Olmec et dans la zone métropolitaine juste avant d'arriver au Tabasco. C'est-à-dire que j'ai pris presque tout l'arrondi du golfe du Mexique, et là il y a des sites archéologiques époustouflants qui sont à peine en train d'être découverts. Mais en l'occurrence, c'est un musée qui va vous présenter trois grandes cultures du Mexique. Les Olmecs avec ses têtes géantes, d'ailleurs vous entrez dans le musée qui est maintenant complètement refait, qui est superbe, presque aussi beau que le musée de Mexico. Une énorme tête, le mec vous accueille, tout est de marbre, et puis il est conçu en escalier, il est sur un terrain qui descend très très doucement avec un gazon superbe, et le bâtiment a été posé comme cela, avec des marches très douces, et vous passez d'une salle à l'autre avec des transitions qui sont très très bien présentées. La façon des vitrines par exemple, et la muséographie est tout à fait remarquable. Alors à part le côté Olmec, je dirais qu'il y a une ou deux choses qu'on retient. Cette tête de Tres Zapotes que vous avez vue à l'entrée, elle vous interpelle tout de suite avec cet œil en amande, cette façon de loucher, ces grandes lèvres.
Le fait qu'il y ait des escaliers, c'était également pour les sacrifices ou...
Non, ça je parle du musée en soi. Hein. C'est vraiment l'architecture même du musée qui est faite comme cela, parce que vous êtes dans un bâtiment complètement moderne qui vient d'être terminé il y a quelques années et qui a pratiquement l'allure et le côté majestueux du grand musée de Mexico. Et finalement, les premières salles qui sont donc ces salles des premières civilisations, celles des Olmecs, il y a une statue qui m'a toujours beaucoup touché, c'est celle d'un... On peut raconter toute une petite histoire là-dessus. Il y a des choses superbes. Il y a le prince, par exemple, qui est un jeune homme avec une expression extrêmement douce, avec une musculature très marquée, comme des espèces de... Les bras sont transformés carrément en fût, comme ça. Hein. Tellement on veut montrer la puissance et le jaguar en même temps que le visage de ce jeune homme, avec une coiffe extrêmement élaborée. Ce sont des blocs qui sont taillés dans un basalte extrêmement dur, avec systématiquement des petits grains noirs, comme ça, qui reviennent en surface. On a senti le polissage et certaines choses étaient plus dur que d'autres, mais quand vous les effleurez comme ça, ça reste un peu rêche, mais en même temps on voit qu'il y a une patine et une façon d'avoir créé des volumes qui créent surtout dans votre tête une économie fantastique. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête devant peut-être la plus belle statue du musée, c'est le Seigneur de las Limas, qui a toute une histoire d'ailleurs. Il est en matière verdâtre, c'est une serpentine, si j'ai bonne mémoire, qui est très très curieuse, et vous allez voir qu'il a non seulement une histoire, mais que sa façon d'être présentée nous montre que les Olmecs avaient une pensée très curieuse. There's a murmur in the air, and I can hear it. There's a magic atmosphere. Yes, you know it's true. There's a love that's everywhere, and I can feel it. I can feel it.
There's a magic atmosphere.
Vous me parliez de serpentine tout à l'heure, Maurice. Qu'est-ce que la serpentine ?
C'est une pierre verte, mais ce cylindre de la Slimace, en y réfléchissant bien et en le voyant de plus près comme cela, je vous dirais qu'il est en jadéite. Donc c'est une pierre semi-précieuse. Mm-hmm. Toutes ces pierres un peu magiques de l'époque des Olmèques sont souvent de couleur verte. Et là, en l'occurrence, c'est bien sûr symbolique. Ça représente la végétation, ça représente ce côté extrêmement humide qu'on évoquait un peu tout à l'heure. C'est vraiment l'idée de la forêt de pluie. Or, cette pièce de la Slimace, elle vient de la région de Tehuantepec, ou plutôt de l'isthme de Tehuantepec, l'endroit où le Mexique est le plus resserré sur le bas, donc dans les dernières terres chaudes des Olmèques. Et c'est un personnage assez curieux. C'est un prêtre, très certainement. Il fait une 60 cm de hauteur à peu près. Et c'est un prêtre qui est assis en tailleur et qui porte sur ses genoux un enfant qu'il a posé sur ses bras. Et ses bras sont vraiment penchés en avant comme s'il allait vous offrir cet enfant, comme si cet enfant allait tomber. Et quand vous l'observez bien, vous allez voir que dans la sculpture, c'est donc de la pierre dure et ça a été poli minutieusement, vous voyez que les jambes de l'enfant sont très souples comme ça, comme si elles coulaient au bord du bras, et la tête porte un masque de félin, et on a vraiment l'impression que symboliquement on a voulu le transformer en cet animal, et ce côté un peu relâché du corps de l'enfant avec la rigueur si droite, cette tête déformée, vous savez qu'on pressait les têtes en forme de pain de sucre comme ça du grand prêtre, qui vous regarde dans les yeux avec toutes sortes de scarifications et de hiéroglyphes qui sont dessinés sur lui, bah vous vous dites cet enfant est peut-être mort, on a l'impression que c'est une offrande comme ça, une offrande sacrificielle d'un enfant qui serait mort ou en tout cas qui aurait été endormi d'une façon ou d'une autre. Alors c'est une pièce énigmatique, elle est superbe dans sa patine et sa façon d'avoir été merveilleusement polie, mais elle a une histoire assez curieuse aussi. Elle a été trouvée par hasard par des paysans dans un champ comme cela, et ces paysans ont ressenti le besoin dans ce petit village de Las Limas de refaire ce que les Olmèques aux alentours peut-être de 500 ou 1000 avant Jésus-Christ ont dû faire. Ils ont pris cette statue, ils l'ont posée dans une petite hutte et immédiatement ils ont allumé des bougies, ils ont allumé des offrandes et c'est devenu une véritable divinité du village. Et puis on l'a su, bien sûr. On en a parlé et finalement les archéologues sont venus voir cette merveille et ils ont décidé de la prendre pour la mettre dans le musée de Jalapa. On a enlevé pratiquement cette idole de ce village. Et ce qui est curieux, c'est qu'en 1970, des voleurs ont réussi à pénétrer dans l'ancien musée, qui était un petit peu fourre-tout à l'époque, et ils ont volé la pièce maîtresse. Ils sont partis avec le seigneur de Las Limas. Et il a complètement disparu de la circulation. Mais le directeur de l'époque a eu une réaction extrêmement vive. Il avait des photos noir-blanc. Il les a diffusées dans le monde entier, en tout cas dans tous les milieux qui connaissaient les pièces.
Donc on a retrouvé la pièce.
Oh, de façon très curieuse. C'est-à-dire qu'en définitive, tout à coup...
Chez un particulier.
Non. Un shérif de l'État du Texas a reçu un téléphone anonyme un soir et on lui dit qu'il y avait une surprise dans une chambre d'un motel de sa petite ville. Et on est entré dans cette chambre et sur la table de nuit, on a retrouvé le seigneur de Las Limas intact, impeccable, sans une égratignure. Il est de nouveau dans sa vitrine à Jalapa. C'est une belle histoire.
Ah, c'est une belle histoire. Ouais.
Et en l'occurrence, quand on visite ce musée, je vous dirais qu'on a des chocs esthétiques absolument incroyables. Il y a une salle entière, par exemple, avec des statues d'argile qui montent souvent à 1 mètre, 1,50 m. Ce sont les plus grandes sculptures d'argile cuite qu'on ait retrouvées au Mexique. Ça, c'était les grandes tombes de la région. Il y a les Huastecs, il y a les Totonacs, il y a différentes cultures qu'on va visiter les unes après les autres. Il y a aussi une chose très curieuse. Il y a une salle entière avec, par exemple, des sonrientes, des statues qui sourient. Vous avez l'impression de voir des dents, un peu comme les dents de Sylvie Vartan, vous voyez, avec une petite partie pointue sur l'avant. Et ces gens ont des rictus très étranges. Le sourire est vraiment crispé comme ça.
Comme les serpents à plumes.
Oui, je dirais que c'est vraiment l'expression de quelqu'un qui a quelque chose d'extatique. Et sur leur tête, il y a souvent des symboles avec des singes ou le mouvement ou des choses qu'on lit aujourd'hui. Une coiffe très étrange aussi, très ouverte. La tête est déformée carrément en triangle inversé, là. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était des gens qui se droguaient. C'est sûrement des prêtres en plein état de transe. Hein. Uh-huh. Alors, il y a comme ça plein de symboles. Il y a par exemple une salle complète sur le jeu de pelote avec les palmes, avec les joues, avec les différentes pièces maîtresses qui servaient à ce jeu qu'on va retrouver peut-être lors de nos prochaines rencontres.
Oh, dimanche prochain, pourquoi pas?
Ouais, dimanche prochain, ce serait simplement le fait de se dire il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que des vaches, il y a aussi des tropiques, de la musique et beaucoup d'ambiance, je dirais très sensuelle. Là, on va descendre carrément sur la côte. Veracruz, c'est Veracruz et c'est aussi une ville.
À dimanche prochain, Maurice.
À dimanche.